Voilà, alors là, la deuxième partie, j'étais partie un petit peu dans tout le contexte. Là, je vais vous parler concrètement de comment est-ce qu'on, le titre était donc l'influence aussi, hein, Fox et influence. Comment est-ce qu'on fait pour influencer quand même avec tout ce faux, et une fois que j'ai posé le cadre. Je vous conseille la lecture de Culture numérique de Dominique Cardon. Je pense que c'est peut-être pas la première fois qu'on vous en parle, donc je vous reconseille, re-reconseille. Et voilà, là ici vous avez un petit extrait qui vous montre que on entend souvent des choses du type sur Internet c'est catastrophique, on trouve tout et n'importe quoi, ça donne une vitrine à tous les pires complotistes, négationnistes. Alors oui et non, l'accès n'est pas la visibilité. La véritable bataille de l'influence, et je vous parlais tout à l'heure à l'instant des influenceurs, la véritable bataille de l'influence, c'est celle de la visibilité, c'est-à-dire celle du nombre. Et là, si vous regardez le nombre d'abonnés, ça, ce sont le nombre d'abonnés Twitter. Alors encore une fois, Twitter, c'est une petite sphère un peu particulière, mais on peut quand même évoquer cet espace-là. Égalité et réconciliation, le site de Soral antisémite négationniste, c'est 32 000 abonnés. Alors ça, c'est les chiffres de début 2019. Vous pouvez aller voir, je suis allée les vérifier. On est toujours dans le même ordre d'idées et l'écart s'est même encore creusé, en fait, hein, proportionnellement. Donc, 32 000 abonnés. Le Monde, c'est plus de 8 millions d'abonnés. On n'est pas sur la même planète en termes de visibilité. Voilà. Donc, il n'y a pas simplement le fait d'avoir une présence sur Internet, de publier ou d'avoir un site. Est-ce que vous êtes lu? Est-ce que vous êtes vu? C'est ça, la vraie question. Et par qui? Deuxième question. On y reviendra. Donc, cette bataille de la visibilité, c'est comment passer de la marginalité, de l'audience confidentielle, à la visibilité de masse. Voilà. Et bien, pour ça, il faut maîtriser les logiques informationnelles et les techniques de propagation dont je vous ai parlé. Une fois que vous avez compris comment ça marche, eh bien, vous pouvez vous outiller pour optimiser à votre profit et gagner en influence, quelle que soit l'intention et la valeur de l'information. Exemple type, les fameux faux remèdes qui circulent pour le Covid, qui veulent juste vous vendre des tisanes. Si vous avez compris comment vendre votre tisane, parce que vous maîtrisez le principe, l'architecture, le fonctionnement de ces nouveaux circuits, ça marche très bien. Pareil sur YouTube ou sur Instagram, quand vous avez compris les codes de la plateforme, de l'algorithme, et que vous savez quoi produire pour que ça se répercute, que ça se diffuse, que ce soit promu, mis en avant, gagner des followers, etc. Donc déjà, comprendre ces logiques, hein, les maîtriser, ensuite vous permettre de les utiliser, de les optimiser. Et si on parle d'influence, justement, et puis de propagande, on peut observer ce que Hervé Le Cronier aussi vous avait évoqué, un tournant dans les doctrines étatiques de contrôle de l'information. Voilà, ça, c'est assez important et intéressant. On passe aujourd'hui, hein, depuis quelques années, d'une logique de restriction de l'accès, une logique de censure par l'interdiction, à une logique de censure par submersion, c'est-à-dire d'invisibilisation. Je vous ai dit, l'important, ce n'est pas d'être, c'est d'être vu. Si vous êtes... vous pouvez publier tout ce que vous voulez, mais si personne ne vous regarde, ne vous lit, ne vous reçoit, vous êtes invisible, donc inoffensif. C'est aujourd'hui la stratégie qui est adoptée par beaucoup d'États autoritaires qui, plutôt que d'essayer de supprimer des contenus, d'interdire des contenus, de créer des barrières illusoires, parce qu'on a vu que techniquement c'était extrêmement difficile, il y a un truc qui marche beaucoup mieux, on vous rend invisible. Comment ? Eh bien, en subventionnant les armées de trolls, vous avez parlé de l'armée des 50 centimes en Chine, les armées de trolls russes, mais il n'y a pas que. On pourrait aussi parler finalement des armées de trolls partisans de Donald Trump qui dans un sens fonctionnent aussi comme ça, mais de toutes les armées de fans et de partisans qui, lorsqu'on les sollicite d'une certaine façon, eh bien, vont réagir, vont propager et vont créer une forme de submersion. Donc les personnes indésirables, hein, non seulement évidemment sont sujettes à campagnes de haine, d'intimidation, de menaces, mais aussi l'information en elle-même est submergée et noyée par d'autres. Alors il y a plusieurs techniques, hein, je vais vous en parler. Première technique pour acquérir de la visibilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore le plus visible dans les circuits de l'information? Ce sont les mass médias, la télévision. On n'en parle pas beaucoup de la télévision, mais la télévision, c'est ce qui reste aujourd'hui encore le média le plus regardé. On a tous été scotchés à notre télévision pendant le confinement. Enfin, j'exagère, moi je l'ai carrément supprimé ma télévision. Je ne l'ai plus allumée pendant 3 mois. Mais le fait est que vous regardez les chiffres, hein, la consommation télévisée a bondi. Donc ça reste énorme. Et donc l'idée, pour gagner en visibilité, il faut passer le cap des mass médias, c'est-à-dire qu'il faut que la presse nationale et les journaux télévisés en parlent. Comment faire pour que la presse nationale et les journaux télévisés en parlent ? Vous faites monter un sujet, plus ou moins artificiellement, sur les RSN, hein, réseaux sociaux numériques, pour qu'il soit repris. Alors quand vous pensez à tous les tweets, à tous les trucs qui viennent des médias sociaux, qui sont repris par les médias de masse, posez-vous la question, est-ce que c'était vraiment aussi visible que ça avant qu'ils en parlent ? S'ils n'en avaient jamais parlé, ça serait resté, bah, finalement, beaucoup plus confidentiel. Donc il y a un effet d'échelle, on va voir. Autre moyen aussi, trouver un relais puissant, hein, pour une audience de masse, hein, c'est-à-dire ce que Dominique Cardon aussi appelle un blanchisseur d'information, vers quelqu'un qui a une certaine audience, qui est invité dans des talk-shows, qui a des colonnes dans des journaux, qui va reprendre une information un peu douteuse, un peu confidentielle, une opinion un petit peu marginale, et qui va justement assurer cet effet de passage dans les médias de masse. Autre technique aussi, provoquer une action spectaculaire qui sera reprise dans l'actualité. Modèle idéal type, une manifestation. Ou un happening un petit peu spectaculaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si on est très suivi sur Internet, on n'a toujours quand même pas de visibilité ou pas une grande visibilité dans l'opinion publique tant qu'on ne passe pas par les médias mainstream. Voilà, les médias traditionnels, ils continuent toujours à avoir une position dominante, même si elle est grignotée, même si elle est contestée. Mais il ne faut quand même pas les ignorer, voilà, dans l'équation. Et ça a été très bien montré d'ailleurs par des études sur les élections américaines de 2016. Alors comment est-ce qu'on fait pour propager du contenu ? Donc ça, je dis, comment est-ce qu'on fait pour être visible ? Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour propager du contenu, pour faire monter sur les réseaux sociaux, pour ensuite être repris dans les grands médias? Bah déjà, vous taillez votre contenu pour la viralité, sensationnalisme, format court, texte sur image, c'est le principe du même, ou des petits articles, des petites vidéos de brut, des choses comme ça. C'est très très bien fait pour être partagé et pour marcher. Ça ne veut pas dire que c'est une forme négative qu'il faut ignorer. Hein. Enfin, je veux dire, c'est super intéressant, ça crée de la créativité. Enfin, c'est pas la forme le problème, c'est la façon dont elle est exploitée, en l'occurrence. Comment on fait aussi pour propager le contenu et puis pour gagner en visibilité? On a le fameux micro-ciblage. On utilise donc toutes les données, hein, qu'on a sur les utilisateurs pour faire parvenir le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est le principe du marketing. Hein. Le principe du marketing depuis très longtemps. Comment acheminer ma publicité, mon information commerciale à la personne qui est susceptible d'y être réceptive? Il y a un truc nouveau, évidemment, c'est l'amplification computationnelle, les social bots, hein, ces robots qui sont actifs sur les médias sociaux pour promouvoir artificiellement des contenus. Je vais vous montrer un exemple. Ce qu'on appelle l'astroturfing, ou alors en français le similitantisme. C'est mignon, hein ? Alors, le similitantisme, c'est quoi ? C'est en fait simuler par divers moyens un mouvement d'opinion et promouvoir certains messages sur les médias sociaux comme expression d'une opinion. Vous faites croire qu'il y a un groupe, qu'il y a des citoyens véritablement engagés et qui font monter, alors qu'en fait, ce sont des comptes fabriqués. Vous avez 150 comptes dirigés par la même personne, vous avez des bots derrière, vous avez des fausses signatures, des fausses pétitions, etc. Tout ça, c'est de l'industrie du faux qui fait croire qu'il y a derrière des vrais citoyens et qu'il y a un vrai mouvement. Et ça, ça fait monter un sujet, hop, et ensuite, le sujet, oh là là, ça monte, il faut qu'on en parle. Et c'est repris ensuite dans les médias mainstream. Ça marche très bien, l'astroturfing. Les fermatrolls, qui font aussi de l'astroturfing, hein, voilà, tout le monde est, c'est interchangeable, hein, et les armées d'internautes coordonnées, je vous en parlais, donc ça c'est une forme de trolling hein, sponsorisé par un État, c'est-à-dire que l'État est plus ou moins derrière aux manettes, c'est plus ou moins officiel, beaucoup de pays, hein, qui, y a des rapports là-dessus sur la liberté d'expression et sur les armées de trolls sponsorisées. Alors, l'avantage de ces fermatrolls, de cet astroturfing et de tout ça, c'est que, déjà, ça coûte pas cher. Le coût est ridicule. C'est quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros maximum à l'échelle d'une campagne américaine. C'est une goutte d'eau. Donc, ça coûte pas cher. Et puis, le commanditaire est difficilement identifiable. Voilà. On se cache très facilement derrière ces phénomènes. Alors, un exemple intéressant de diffusion artificielle, c'est le cas d'un rapport classifié qui a été mis en valeur sur Twitter avec le hashtag « Release the memo ». Et c'était donc en 2018. Bon, là, c'est un article de 2018. Alors, j'ai plus la date exacte. C'était en janvier 2018. Et il y aurait donc un rapport classifié qui incriminerait l'administration Obama et les démocrates et donc discréditerait l'enquête à l'époque du procureur Mueller sur les ingérences russes lors de l'élection de 2016. Et donc ce que réclamait le hashtag Release the Memo, c'est publier le rapport. Publier le rapport, vous le cachez pour protéger les démocrates, pour protéger le gouvernement, l'ex-gouvernement Obama, etc. Ça a été publié, vous le voyez, à 15h. On trouve les premiers tweets à 15h. Et puis jusqu'à 19h, ça reste vraiment pas grand-chose. Puis à 19h, c'est récupéré par des monitoring bots, c'est-à-dire des robots républicains, qui écoutent le réseau social, hein, il y a des systèmes d'écoute de médias sociaux automatisés, à la recherche de mots-clés à reprendre, parce que ça va être intéressant, ça va pouvoir aller dans le sens de la campagne. Et donc ça a été, ou en tout cas du discours politique, ça a été repris par des bots à 19h. Et vous voyez comment, broup, tout de suite la courbe, elle grimpe. Elle grimpe et arrive 21h30, 22h. Là, elle est relayée par des influenceurs, c'est-à-dire des êtres humains en chair et en os derrière leur compte, mais qui sont suivis par des dizaines de milliers, centaines de milliers d'abonnés, donc qui ont du coup, paf, qui vont recréer un boom dans le partage. C'est amplifié encore dans la nuit par des transient bots, donc des robots transitoires, hein, unis pour créer en quelque sorte pour la situation, on va dire. Et donc ça arrive à 9h du matin, on a atteint les 1 800 000 tweets. Et là, qu'est-ce qui se passe dans les rédactions des journaux? Ça monte. Donc on va en parler. De fait, il n'y avait absolument rien d'incriminant dans le rapport. Et donc, on a parlé d'un truc pour rien. Effet de mise à l'agenda. De façon totalement artificielle. Vous avez bien pigé le truc. Exemple de ciblage. Comment est-ce qu'on utilise les données pour cibler de la publicité? Scandale Cambridge Analytica et autres. Eh bien, publicité politique. Vous habitez dans le Yorkshire, vous avez été victime des inondations. On va vous envoyer pour la campagne pour le Brexit une publicité qui vous demande si vous voulez laisser les 350 millions de livres à l'Union européenne ou construire des digues dans le Yorkshire. You choose. Mais évidemment, vous vous sentez concerné par le message. Et alors, ça a été décliné, hein, les fameux messages sur les 350 millions de livres a été décliné par exemple, les unités de maternité. Si vous étiez jeune parent ou en âge de, ou voilà, vous venez, ben, évidemment, vous y aviez droit. Hein, c'était celui-là. Autre type de manipulation, par exemple, je vous parlais des images, des vidéos qui sont tout à fait authentiques, mais qui sont décontextualisées. Là, c'est juste un montage de photos montrant Hillary Clinton en train de tousser. Quel est l'effet du montage ? Bah, évidemment, ça va dans le sens de « elle est malade ». Et ça a été une information, une rumeur qui a circulé beaucoup pendant la campagne. Mais en fait, Hillary Clinton, elle est malade. Donc, hop, on vous fait des petits montages photos pour vous prouver que... Et puis, je ne vous parle même pas de Nancy Pelosi, qui est une folle ivrogne. Je vous laisserai regarder la vidéo sur YouTube qui montre comment ça a été manipulé. Donc, il y a une vidéo qui a été particulièrement virale où on voyait Nancy Pelosi, effectivement, complètement saoul au dernier degré. En fait, c'est une vidéo originale qui a juste été légèrement ralentie. Et donc, donne l'impression, c'est fabuleux, donne l'impression que... voilà, quoi, c'est dingue. C'est extrêmement convaincant. Et la vidéo est authentique, mais manipulée. Manipulée juste par un petit ralentissement. Un tweet de Donald Trump du 2 juillet 2016, donc où vous avez tout simplement, il n'y a rien dans l'histoire, il y a juste une affirmation, « Most corrupt candidate ever ». À l'intérieur d'une étoile de la vide, rouge, certes, mais comprend qui pourra, et puis c'est juste une affirmation. Mais on peut en être parfaitement convaincu. Alors, comment ça marche ? Ça exploite, je vous parlais du caractère addictif des médias sociaux, ça exploite les biais cognitifs, tout ça. C'est-à-dire que ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que donc, ça appuie sur les bons boutons. Le biais de confirmation, qui fait que ça va dans votre sens, donc vous êtes persuadé que c'est vrai. La confusion entre la corrélation et la causalité. Alors ça, c'est un des grands classiques. L'esprit humain est fait pour, cherche forcément des raisons. Il cherche des explications, il cherche des raisons. Et dans la façon dont on est programmé et dont on pense, naturellement, si un événement a lieu après un autre, l'événement suivant est la conséquence du premier. Et on a énormément de mal, et il suffit qu'on vous présente les choses comme ça, et paf, il y a un truc qui se crée, il y a un lien qui se crée, qui est un lien de causalité, alors qu'en fait, il y a juste deux choses qui se sont passées l'une après l'autre. Ou ensemble, et elles n'ont pas forcément de lien l'une avec l'autre. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai un médecin avec qui je discutais de questions justement d'infox, notamment pour les vaccins, des choses comme ça. Et il m'a dit, vous savez, j'ai une fille qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Et je devais lui faire le vaccin contre le papillomavirus, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Elle allait avoir 16 ans. Et puis, les médecins sont toujours les plus mal chaussés. Il a attendu, il s'est dit, c'est pas grave, je lui ferai, c'est les vacances, c'est l'été, je lui ferai à la rentrée. Et puis, à la rentrée, elle développe sa maladie. Elle m'a dit, je suis médecin. Je lui aurais fait le vaccin au mois de juin. J'aurais été persuadée qu'il y avait un lien. Pourtant, elle l'a bien développée, la maladie. Mais elle n'a pas été vaccinée. Alors, des saloperies, il y en a. Ça existe. La question, c'est identifier, grâce à ce qu'on appelle une taille de l'échantillonnage, extrêmement vaste, identifier les liens de causalité quand il y en a. Parce que ce n'est pas parce qu'une chose arrive après une autre que la première est la cause de la deuxième. Et on en arrive au problème de la taille de l'échantillonnage. Exemple tout bête, vous allez pouvoir le constater cette semaine. Les cartes d'étudiants impairs et les cartes d'étudiants pairs. Eh bien, il y a des groupes où, ben, manque de bol, vous allez vous retrouver à 80% dans le groupe. Ben oui, parce qu'on est 80% à avoir un numéro pair. Ah, c'est ballot. Bon. Ben, ça, c'est la taille de l'échantillonnage. Plus le groupe est grand, plus on a des chances pour qu'on ait à peu près 50%. Plus le groupe est petit, plus on peut avoir des grosses disparités. Et sur un groupe de 10, eh ben, vous pourrez vous retrouver avec 8 étudiants. Eh ben, là, il faut gérer. Voilà. Donc, c'est une question. C'est pour ça qu'on fait des études à large échelle. La question du hasard aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on est nul pour le hasard, hein. C'est catastrophique. L'être humain est incapable d'évaluer correctement les effets du hasard. Vous lancez 15 fois le dé, vous faites 15 fois un 6, vous vous dites qu'il y a un problème quelque part. Vous lancez 1 million de fois le dé, tout de suite, ça sera parfaitement normal. Mais il se peut que 15 fois d'affilée, il y a le 6 qui sorte. C'est juste le hasard. Après, on en vient à la proportionnalité, toujours la division, l'effet râteau. Bref. Il y en a plein des biais. On pense tous comme des cruches. Une fois que vous le savez, vous avez fait un immense pas. Vous avez fait un immense pas parce que vous savez que vous êtes faillible, vous savez que vous êtes pas très doué. Mais une fois qu'on en a conscience, on peut prendre ce petit recul et se dire « Ok, là, est-ce que je réfléchis comme il faut ? Est-ce que je ne me suis pas planté dans le raisonnement ?» Encore une fois, c'est abominable parce que ça prend du temps, de l'énergie, et c'est pénible. Alors j'en viens à ma question des effets fantasmés et des vrais dangers. Les effets fantasmés, tout d'abord, c'est ceux du chiffre, hein, voilà, les chiffres vertigineux des partages et des infox, qu'il faut ramener quand même à l'ensemble des interactions sur les médias sociaux. Voilà. Exemple que je vous donne après, un exemple qui a beaucoup circulé, on a dit, vous vous rendez compte, les 20 infox les plus partagés sur Facebook ont été beaucoup plus partagés que les 20 informations vraies qui étaient partagées à l'époque, hein, donc quelques semaines, sur les 3 semaines, je crois, avant l'élection présidentielle de 2016. Les journalistes ont comparé les 20 infox, le top 20 des infox au top 20 des informations validées. Alors évidemment, les infox ont été beaucoup plus partagées que les infos validées. Oh, vous vous rendez compte ? Oui, mais alors déjà, pourquoi vous êtes sur Facebook ? Est-ce que vous êtes sur Facebook ou sur n'importe quel média ? Pour discuter d'informations sérieuses du Washington Post et puis de CNN ? Ou est-ce que vous êtes aussi juste pour rigoler avec vos potes ? Pour maintenir le contact avec votre cousine à l'autre bout du monde ? Je veux dire, il y a une question de fonction aussi, tout simplement. Mais là, si on en reste aux chiffres, ces 20 infox, c'est 8,7 millions de partages. 8,7 millions de partages. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Réaction, commentaire. Ça fait 0,006% des actions des utilisateurs américains durant la même période. C'est là que le concept de goutte d'eau dans un océan. Donc, goutte d'eau dans un océan, vous ramenez à l'échelle de ce qui se passe sur Facebook, c'est rien. Bon, sauf que pour certaines personnes, c'est pas tellement rien, parce que c'est 10% des utilisateurs qui ont partagé des infox. Et puis, alors là, je vous donne sur des médias différents, parce que ça dépend des études qui ont été faites, mais toutes concordent à peu près, il y en a eu aussi sur Facebook. Il vous montre que 1% des utilisateurs ont été exposés à 80% des fake news. Et c'est là que vous voyez que ces 0,006% des interactions, pour certains utilisateurs, ça va pas. Il y en a certains qui n'en ont vu aucune, et puis il y en a d'autres qui en ont vu beaucoup. Donc, non seulement il y a les chiffres généraux, mais après, c'est qui les voit ? Je vous posais la question tout à l'heure. Qui les voit ? Il y en a qui n'en voient aucune, et puis il y en a qui en voient beaucoup. Il y a un petit noyau de personnes qui consomment beaucoup de fausses informations. Et alors, le noyau de ceux qui les relayent, c'est encore plus limité, c'est 0,1%. Et puis, qui est-ce qui a cru à ces fausses informations ? Ce n'est pas parce que vous les lisez, ce n'est pas parce qu'elles vous passent sous le nez, que vous les croyez. C'est d'ailleurs même pas parce qu'elles vous passent sous le nez que vous les lisez. Donc il y en a certaines, de toute façon, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, ou ça n'atteint même pas le cerveau. Elles sont juste ignorées. Après, si vous réagissez, ça peut être aussi juste pour vous en moquer. Vous pouvez partager pour dire « Non, mais il y a des gens qui sont assez cons pour croire ça. » Regarde ce que... Le partage ne dit rien sur la valeur du partage, le pourquoi vous le partagez. Et les commentaires, tant que vous ne lisez pas les commentaires, vous ne pouvez pas savoir quel est le contenu. Le problème, c'est que techniquement, lire des millions de commentaires, j'aime mieux vous dire que personne humainement ne peut le faire. Et même si on confie ça à des machines, c'est très complexe de rentrer dans ces analyses-là. Donc pour le moment, c'est encore un peu l'angle mort de la recherche. On a des chiffres bruts, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Ou on peut difficilement les interpréter, me semble-t-il. Alors, est-ce qu'on y croit ? Ça dépend de la vraisemblance de l'information. Et puis, ça dépend aussi de vos convictions. C'est toujours pareil, on en revient au biais de confirmation, etc. Et de la ligne, ce qu'on appelle l'alignement idéologique. Je donne un exemple très intéressant qui a été publié là en 2020, l'analyse d'une page Facebook qui s'appelle Santé Plus Mag. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, la pratiquent, etc. Alors, Santé Plus Mag, c'est un peu la bête noire des fact-checkers parce qu'elle diffuse très souvent des fausses informations en matière de santé. Et elle est suivie par énormément de monde. Et donc, il y avait une étude sur le chiffre global des interactions aussi. Donc, non seulement il y a énormément d'abonnés, mais en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions. Et donc, il y a une étude de 2018 qui tirait la sonnette d'alarme en disant « Bah oui, mais attendez, vous vous rendez compte, regardez, la page, une page là qui est connue pour diffuser de la désinformation en matière de santé, elle a un succès fou. » Ouais, ok, elle a un succès fou, plus que, alors justement, là, c'était l'inverse, plus que Le Monde, plus que tous les journaux réunis, là, oh, qu'est-ce qui se passe ? Baignure, arrête ton char, pose-toi 2 secondes et regarde réellement ce qui se passe sur la page Santé Plus Mag. Que se passe-t-il sur la page Santé Plus Mag ? C'est ce que 2 chercheurs ont analysé cette année et ils se sont rendus compte que partages, les commentaires, les réactions, etc., c'était sur les postes qui ne concernaient pas la santé. C'était sur des postes comme « Ma sœur, je t'adore et je t'aimerai toujours, bisous !» Et ça, c'est reposté un nombre incroyable de fois avec « Et si tu aimes, like et tag ta sœur, etc. etc. » Pourquoi ? Ça sert à quoi ? Ça répond à un des besoins fondamentaux qui fait que les médias sociaux, ça marche, c'est le lien social. Médias sociaux. Alors, on dit souvent qu'ils n'ont rien de social, mais ce n'est pas vrai. C'est un vrai lien. Ce sont des vraies interactions. Alors, il y a toutes les dérives qu'on connaît, mais à la base, le média, il est social. Et donc, les gens s'en servent comme ça. Incroyable. Et bizarrement, les informations qui étaient identifiées comme de la désinformation en matière de santé, ça faisait beaucoup moins réagir. C'est-à-dire que proportionnellement, on va moins réagir, du coup, en termes de, on va dire, d'interaction, eh bien, ça représente moins que la proportion des contenus publiés. Alors, si je retrouve mes chiffres, parce que ça, c'est ma spécialité, je parle et après, quand je veux des chiffres, je les ai pas appris par cœur et je les retrouve pas. Voilà, ça y est, je les ai. Non, toujours pas. Voilà. Donc, ça y est, juste pour terminer l'exemple, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, la désinformation de santé, c'est 28% des publications de la page. Donc déjà, c'est moins d'un tiers. Et pourtant, quand on parle de cette page, on va vous dire, c'est une page qui diffuse de la désinformation en santé. Oui, mais pas que, et pas principalement. Donc déjà, moins d'un tiers des contenus. Et ce moins d'un tiers des contenus, c'est moins de 15% du total des interactions. Ça veut dire que les gens réagissent 2 fois moins, pourrait-on dire, quand c'est ce type de contenu. Et en plus, quand vous rentrez dans les commentaires, ça peut être justement pour rigoler, faire s'esclaffer, genre « mais oui, c'est ça », et contester. Donc, les catégories générales en disant c'est un site de désinformation en santé, et regardez toutes les interactions qu'il génère, c'est en fait fallacieux, pour le coup, trompeur, quand on veut regarder un peu dans le détail. Alors pourquoi est-ce qu'on partage ? Je vous parlais de pourquoi est-ce qu'on produit aussi du faux tout à l'heure. Je disais les intérêts politiques, économiques, de notoriété. Alors les raisons du partage, la notoriété, c'est la raison principale, une des raisons principales du partage, mais pas que. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on le remarque beaucoup, mais même avant la crise du Covid, hein, les infox les plus partagés concernaient la santé, hein, pas la politique ou la société. La santé. Pourquoi la santé ? Parce que la santé, tout le monde se sent concerné. Et puis, socialement, c'est un peu moins risqué de partager sur la santé que de partager sur des opinions politiques tranchées ou qui peuvent paraître un petit peu extrémistes. Vous n'avez pas envie de vous aliéner, hein, parfois, justement, voilà, votre média social, c'est pas toujours là que vous allez exposer, hein, vos opinions politiques. Certains l'utilisent comme une tribune, d'autres, justement, évitent tout sujet politique, sociale, polémique, pour ne garder que la fonction sociale fatigue, ce qu'on dit, c'est-à-dire la fonction de lien, de connivence. Alors, les jeunes ne seraient pas non plus les plus naïfs, hein, bonne nouvelle, je vous annonce, je ne fais pas de jeune bashing, là, pour le young bashing, pour le coup, c'est le contraire, c'est les plus âgés, hein, qui diffuseraient le plus de fausses informations. Alors, je mets au conditionnel encore, parce que quand je suis allée voir l'étude, eh ben, j'ai dit, ah bah tiens, comme par hasard, évidemment, les gens qui ont fait l'étude ne se basent pas sur les informations diffusées, mais sur les interactions avec des sites qui diffusent des fausses informations. Oui, mais est-ce que ce sont les fausses informations qui ont été diffusées ? Encore une fois, est-ce que c'est vraiment la fausse information qui a généré le partage ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Tant qu'on ne rentre pas vraiment dans le détail, c'est difficile. Et rentrer dans le détail, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que les chercheurs ils font mal leur boulot. Toutes ces études-là, elles sont super intéressantes, elles sont nécessaires. Mais c'est parce que techniquement, humainement, matériellement, on a besoin de temps, de personnel, d'argent pour aller voir dans le détail de tout ça. Et c'est tellement volumineux que c'est compliqué. Mais le fait est que les plus de 65 ans, on va dire, avaient une pratique intensive, beaucoup plus intensive, du partage à partir de sites qui étaient connus pour diffuser de la fausse information. Donc on peut... les chaînes de mails aussi, hein, c'est très générationnel, et ça fonctionne encore très 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 bien, notamment à la génération de vos grands-parents. Hein, c'est assez massif comme usage, et alors ça passe complètement sous les radars, parce que ça ne se passe pas sur les médias sociaux, et personne ne peut le quantifier. Or, je pense que c'est un peu aussi la partie immergée de l'iceberg. Ou en tout cas, qu'il ne faut pas la négliger. Alors, pourquoi est-ce qu'on partage ? Parce que c'est drôle, c'est choquant, ça suscite des réactions, des interactions, ça, je vous l'ai dit. Et puis, donc, diffuser, c'est pareil, je vous l'ai dit, c'est pas forcément que vous adhérez. On peut avoir, hein, une posture complexe, et tout n'est pas forcément blanc et noir. Et puis, il y a une dimension identitaire qui est très intéressante. Je vais vous montrer deux citations personnelles. dimension identitaire du partage des informations sur les médias sociaux et par mail. En fait, c'est une valeur d'expression, d'affirmation des opinions, plus que de valeur de véracité. C'est-à-dire que souvent, lorsque les gens partagent, je vous parlais de l'idée d'avoir un geste citoyen pour diffuser des informations que les médias nous cachent. Ouais. Souvent, il y a « je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais ça pourrait l'être. » Et puis, de toute façon, j'y crois, c'est une cause importante. Et donc, c'est une valeur d'expression de vos convictions. Et les personnes qui utilisent les médias sociaux comme une tribune d'exposition, de mise en scène de leur personnalité, de leur identité, de leurs convictions, de leurs combats, qu'ils soient politiques ou humanitaires ou sociaux, n'importe quoi, enfin, quels qu'ils soient, à partir du moment où vous utilisez ces médias comme des diffuseurs d'opinion, eh bien, vous êtes susceptible de tomber dans le panneau Parce que ça va dans votre sens, parce que vous estimez que c'est important et qu'il faut en discuter, il faut que ça se sache, etc. Et ça, c'est la puissance du biais de confirmation et puis les phénomènes des bulles de filtre. Alors, deux exemples voilà, sont des, que j'ai tirés de mon environnement. Un post sur Facebook, le premier, c'était en réaction, c'était quelqu'un qui avait publié l'information comme quoi l'application Stop Covid, ne l'installez pas, elle donne accès à tous vos contacts Facebook. Alors c'est très intéressant parce que ça c'est faux. Mais en revanche, ce que les gens savent moins, c'est que vous n'avez pas besoin d'une application Stop Covid pour avoir accès à tous vos contacts Facebook, vos amis, etc. Ça, c'était justement Cambridge Analytica. Mais c'est aussi, par exemple, ce que fait Facebook quand vous visitez un site qui a le petit bouton Facebook pour partager. Bah, même si vous n'êtes pas connecté, il récupère les données. Donc, de toute façon, vous êtes tracé partout. Et là, tout d'un coup, on dit oh, « Attention, avec Stop Covid, on pourra... » Non. Pas avec Stop Covid. Alors, Stop Covid pose d'autres problèmes, d'autres questions, pas de soucis. Mais là, c'était faux. Donc, je me suis permis de faire une petite mise au point en disant on peut avoir une vraie discussion sur le capitalisme de surveillance, sur le traçage, sur tout ce que vous voulez. Mais ça, a priori, de tout ce que j'ai lu, de la conception du truc, non. Et alors, la réponse, sans doute à vérifier, comme il faudrait vérifier toute information. Faudrait vérifier toute information, non. Parce que humainement, vous ne pouvez pas passer votre vie à vérifier le flot d'informations qui vous arrive en permanence. Donc ça, pas possible. Mais de toute façon, ce genre de pistage me dégoûte par principe. Cette perversité est le symptôme d'un système délétère qui me donne la nausée. Alors même si le partage de données personnelles issues du grand data n'est pas prouvé, ce genre d'agissement ne serait pas surprenant. Dans le doute, je protège ce qui me reste de liberté ou d'illusion, mais j'y tiens. On ne peut pas le résumer mieux. C'est juste une question de conviction. Et finalement, peu importe que ce soit vrai ou faux, mais à la limite, c'est très bien. Je veux dire, la personne-là qui m'a répondu ça, elle a pris conscience du truc. Elle a conscience du truc, peu importe si ce que ce soit vrai ou faux, je suis par principe opposée à ça, et donc je le prends comme ça et je réagis comme ça. Et puis une amie à qui j'avais envoyé un rectificatif à la suite d'une chaîne de mails, justement, qui me dit, tu sais, à ma génération, cette dame a un peu plus de 70 ans, l'idée de hoax n'est pas la première qui vient à l'esprit, et j'ai pris une telle horreur de la société de consommation qu'un tel message ne peut que me convaincre. Voilà. Donc là, vous avez le biais de confirmation dans toute sa splendeur. Je ne vous dis pas de ne pas vous faire avoir, je vous dis d'avoir conscience du fait que vous pouvez. Voilà. Parce que c'est juste humain et on l'a tous fait et on continuera à le faire. Essayons de le faire un petit peu moins, d'en prendre conscience, de mettre sur pause avant de réagir. On verra. Donc finalement, ce n'est pas un discours d'adhésion au contenu spécifique, à la véracité du contenu qui est partagé. C'est un discours d'adhésion à la cause à défendre. Et l'importance de cette cause l'emporte sur la véracité du message. Une fois qu'on a compris ça, on a compris la propagation de beaucoup de fausses informations. On ne propage pas le faux parce qu'on veut propager le faux, ou parce qu'on y croit dur comme fer, mais parce que ça touche des choses qui, on se sent concerné et on réagit. Donc finalement, ça joue sur l'engagement, le véritable engagement, celui qui remonte des convictions. Et donc, j'en reviens à cette difficulté d'évaluer les effets aussi. Ce n'est pas parce que l'information circule qu'elle a un effet. Comme dit Pascal Froissart, ce n'est pas l'information qui fait l'opinion. Autrement dit, la diffusion de l'information ne suffit pas à changer une opinion. Elle y contribue. Voilà. Elle y contribue d'une certaine façon. Pascal Froissart va même jusqu'à dire, finalement, la conversation que vous avez avec votre boucher ou avec votre belle-mère aura plus d'influence que les infox que vous auriez éventuellement vu passer sur votre fil d'actualité. C'est compliqué la constitution d'une opinion et d'une conviction, et on ne peut pas la réduire au fait d'avoir vu passer une information. L'information n'a jamais fait l'opinion. Une fois que vous avez une information, encore faut-il la traiter, l'interpréter, vous l'approprier. Donc comment est-ce que ça passe dans la vie sociale, voilà. Ou dans quelle mesure est-ce que ça reste dans une bulle et ça ne va pas passer, on va dire, les différentes barrières qui font qu'ensuite vous l'intégrez et vous l'appropriez et ça vient faire partie, alimenter vos opinions. Et puis, ne pas prendre les gens pour des imbéciles, quand même, ça serait bien. Hein, dans les théories de la communication, on a évolué depuis la théorie de la seringue hypodermique. C'est pas parce que les médias vous montrent quelque chose que vous allez croire ça. Hervé Le Crosnier vous parlait, justement, c'est pas les médias ne vous disent pas quoi penser, ils vous disent à quoi il faut penser. C'est un effet d'agenda, c'est-à-dire que ce dont tout le monde parle, vous allez en parler ou vous allez y réfléchir, ou vous allez essayer de vous faire une opinion sur la question. Mais ça sera votre opinion. Et pas forcément celle que vous avez entendue. Et puis, il y a les logiques communicationnelles différentes que j'ai évoquées tout au long de mon intervention, c'est-à-dire que ça peut être juste pour partager des blagues, pour créer une forme de connivence, c'est le rôle de la rumeur, le partage social de la rumeur, la fonction fatigue, la recherche de notoriété, d'approbation, bref, ou aussi tout simplement une forme de mobilisation sociale ou politique. Et puis, je vous le disais aussi, il ne faut pas non plus faire de ces phénomènes en ligne, les hypertrophier et se focaliser là-dessus. Nous avons tous un mix, ce qu'on appelle un mix informationnel, c'est-à-dire qu'on ne s'informe pas uniquement par le biais d'Internet, que ce soit des blogs, des forums, des chats ou des médias sociaux. Il y a autre chose dans la vie. Il y a d'autres sources d'informations. Même si on vous rebat les oreilles aussi que les médias sociaux sont la première source d'information des jeunes aujourd'hui, c'est valable aux États-Unis, ça commence à être aussi de plus en plus valable en France. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, je suis désolée. Vous n'avez absolument rien dit. Parce que c'est quoi les informations que vous recevez sur les médias sociaux? Vous pouvez être abonné à plein de journaux officiels, vous pouvez être abonné juste au compte des personnalités qui vous intéressent et c'est l'information qui vous intéresse, etc., etc. Donc, tant qu'on en reste encore une fois à des chiffres bruts, ça n'éclaire pas beaucoup les choses. Et puis, n'oublions pas la télévision, la radio, la conversation, la vie sociale, les réseaux sociaux, au sens premier du terme, et c'est pour ça que, depuis le début, je parle de médias sociaux. C'est pas la même chose que le réseau social. Réseau social, ça existe depuis que la société existe, ce sont les gens avec qui vous êtes en relation du fait de votre inscription dans la société. Donc on a tendance à hypertrophier ce monde numérique. Il est important, il est de plus en plus important, mais il n'y a pas que lui. Donc ça, c'est un phénomène complexe. J'espère que là, c'est le message que vous allez retenir. Ouais, ben en fait, c'est compliqué son truc. Tout ça, c'est un phénomène, voilà, c'est un phénomène complexe avec plusieurs facteurs d'ordre technique, culturel et social. Et là, je reprends ma mise en perspective historique avec Marc Bloch, qui a écrit sur les fausses nouvelles pendant la Première Guerre mondiale, donc ce fameux bourrage de crâne, qui dit « L'erreur ne se propage, ne s'amplifie, ne vit enfin qu'à une condition, trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. La fausse nouvelle est le miroir où la conscience collective contemple ses propres traits. » Arrêtons de taper uniquement sur la technique et posons-nous la question de la société. L'idée, c'est donc de ne pas isoler un facteur pour en faire le responsable de la propagation des infox. Et là, je vous renvoie aussi à un phénomène de panique morale des médias traditionnels vis-à-vis d'Internet aujourd'hui. C'est assez fabuleux comment vous retrouvez exactement la même logique que celle qui a prévalu au début du 19e siècle, après la Révolution française, quand on accusait le théâtre d'être source d'échauffement des esprits, et de provoquer à la révolte. Pourquoi ? Parce qu'au théâtre, la populace pouvait se réunir et entendre des choses qu'elle n'était pas capable de lire. Donc les gens qui ne savaient pas lire pouvaient aller au théâtre, et le théâtre diffusait des idées pernicieuses qui échauffaient le peuple. Ensuite, ça a été le tour de la presse et du cinéma. Notamment la presse, on l'a accusée au 19e siècle, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle et à la fin, d'encourager au crime, d'encourager au crime parce qu'elle faisait les comptes rendus de meurtres, d'assassinats, etc. Et donc, elle échauffait l'imagination des futurs criminels, leur donner des idées. Je ne vous parle même pas du cinéma qui, en plus, leur montrait les images. Alors là, ça avait provoqué des épidémies de meurtres à cause de la presse et du cinéma qui rendaient compte de crimes. Et puis la radio aussi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'histoire de la guerre des mondes ? À la radio, où on a, la presse ensuite s'est déchaînée en disant qu'il y avait eu des scènes de panique suite à la diffusion de l'émission radiophonique de Orson Welles qui lisait H.G. Wells, la guerre des mondes, et les gens auraient cru que c'était le débarquement d'extraterrestres et y aurait eu des scènes de panique. Ben, en fait, pas du tout. C'est la presse qui a imaginé qu'il y avait des gens assez crétins pour penser que c'était vrai. Et pour paniquer. Parce que la radio, c'était nouveau, parce que la radio, ça frappait les sens. On en est toujours là. La radio venait s'insinuer dans les foyers en parlant directement aux gens. Et donc, ça allait beaucoup plus fortement les impressionner et provoquer une croyance. On est exactement dans le même schéma. Aujourd'hui, alors après, évidemment, la télévision aussi. Qu'est-ce qu'on a tapé sur la télévision ? Médias de masse qui abrutit les gens, etc. Et aujourd'hui, c'est la télévision qui tape sur Internet. C'est génial. Enfin, je veux dire, depuis... On est aussi dans une lutte d'influence, de champ économique, médiatique, et dans un système de concurrence où on essaye de se défendre, de défendre ses positions, et où on a tendance aussi à diaboliser ce qui est nouveau et qui crée de nouvelles conditions, voilà, qui vient bousculer un petit peu le champ. Et pour ces fausses nouvelles, évidemment, toutes les fausses nouvelles ne vont pas se diffuser de la même façon. C'est vraiment ce sont les structures, les cultures politiques qui sont déterminantes, les situations sociales. Voilà, donc il ne faut pas oublier quand même le terreau. Voilà, le terreau, c'est la société, c'est la perte de confiance, c'est le sentiment de la trahison par les élites. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne, ces fausses informations. C'est donc la relation que l'opinion publique entretient avec la vérité et l'information et la confiance en général. Voilà. Les réels dangers, je vous en ai parlé aussi, je terminerai là-dessus. Voilà, c'est l'effet de mise à l'agenda. On va parler de choses qui ne sont des non-sujets ou qui sont complètement créées, fabriquées, au détriment des vrais sujets du fond des programmes politiques ou des vrais problèmes et de l'analyse des choses. Ça contribue à émotionnaliser les esprits et l'information, à polariser les débats, à amplifier les fractures, parce que ce sont des choses choquantes qui vont diviser, sur lesquelles on va s'écharper plutôt que d'argumenter. Ça entretient la défiance, une atmosphère délétère, et tout ça, c'est le serpent qui se mange la queue, parce que vous ne croyez plus ce que vous lisez, est-ce que c'est vraiment vrai ? C'est compliqué. Ça attise le discours anti-média et anti-système, qui est la base du populisme. Évidemment, on peut y croire aussi, à ces fausses informations. Dans le cas de la santé, ça peut être mortel même, mais pas uniquement. On a vu des cas, les cas de la persécution des Rohingyas. Les fake news, ça tue aussi. Voilà. Je ne veux pas non plus minorer la question. Il y a de vrais dangers. Voilà. Et puis, ça sape le principe de la discussion rationnelle contradictoire. Et cette discussion rationnelle contradictoire, elle est pénible, elle est coûteuse, elle est fatigante, elle est inconfortable, mais elle est indispensable à l'exercice de la démocratie. Donc ça, vous le retrouvez chez Dominique Cardon, mais peut-être pas dans Culture numérique, je sais plus, parce que là, je l'ai pris d'un autre... je vous laisse regarder ça. Je termine, voilà, parce que ça, j'en ai parlé... Zut. Je termine par Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. Ce que Timothy Snyder, qui est un historien de la Shoah, résume ainsi, la post-vérité, c'est le pré-fascisme. Formule lapidaire. Pour dire que, effectivement, si on ne peut plus croire personne, si on ne peut plus se fier à qui que ce soit, on a un problème fondamental de démocratie. Donc, comment retrouver de la confiance en deux secondes? Voilà, déjà, ralentir pour réfléchir, je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup la formule de Dominique Boulier, lutter contre le réchauffement médiatique. Réfléchissez avant de cliquer. Et déjà, on aura fait un grand pas. Je vous mets en référence quelques ouvrages relativement récents et qui peuvent éclairer la question. Je vous conseille notamment celui que j'ai là sur moi, dont j'ai terminé la lecture hier soir, Fake News et Viralité avant Internet. Voilà, donc pour remettre tout ça en perspective, il est très, très facile à lire. C'est un ouvrage de vulgarisation vraiment scientifique très, très chouette. La civilisation du poisson rouge sur le marché de l'attention de Bruno Patino. S'il y a un ouvrage à lire sur les fake news, parce qu'il y en a plein, c'est celui de Divina Fromex. Vous pouvez l'avoir gratuitement en passant par la bibliothèque. Il est en ligne ici, donc vous vous connectez sur le site de la documentation et vous pouvez le lire en ligne. Culture numérique, donc, de Dominique Cardon. Et puis Romain Badouard, il y a le désenchantement de l'Internet. Et puis il va sortir là le 25 octobre un nouvel ouvrage sur la modération. Voilà, je vous ai parlé des questions de modération. Il va parler de modération et de liberté d'expression. Voilà. Ah, excusez-moi, j'étais un petit peu longue, mais on m'a dit qu'en plus je pouvais déborder. Donc il faut jamais dire ça aux conférenciers. Si vous avez des questions, je suis tout ouïe, je suis à votre disposition.